Le retour du FM 93 avec Eve-Marie Lortie. La journée selon Patrick Lagacé.
Salut Patrick.
Salut Eve-Marie.
Québec solidaire qui propose d'abolir les subventions aux écoles privées pour améliorer le financement des établissements publics. Ce matin dans la presse plus, tu as écrit un peu là-dessus parce que ton article s'intitule « L'école de la pensée magique ». Patrick, est-ce que l'école québécoise, selon toi, est malade?
Ben oui, elle est malade. Elle est malade et on le voit dans, d'abord, le taux de diplomation secondaire qui est pas aussi élevé que celui de nos voisins ontariens. Et l'Ontario, selon le professeur Régis Royer de l'Université Laval, un spécialiste en éducation, a un des meilleurs systèmes au monde, dans le top 20. Après ça, tu regardes le nombre d'analphabètes fonctionnels de différents niveaux là au Québec. Je pense que le chiffre accepté, c'est 47%. Ben, ces gens-là sont passés par l'école, hein? Puis après ça, moi, je pense que le troisième symptôme de cette maladie-là, c'est le nombre de parents qui choisissent de payer de leur poche pour envoyer leurs enfants à l'école privée.
Ouais, mais même toi, tu as fait le choix d'envoyer ton enfant à l'école privée. Tu dis que ça n'a pas été une décision facile. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le privé pour ton enfant?
Ben j'ai fait le choix en catastrophe. Ce qui est arrivé, c'est que à cette époque-là, le petit habitait avec sa mère dans un quartier. Moi, c'est un quartier que je connaissais un peu parce que j'avais des amis qui habitaient là. Et puis, ce que j'entendais sur cette école-là était absolument pas positif. Au contraire. Et là, le petit a fait sa rentrée progressive en maternelle. Et je te dirais que ce qu'on voyait de l'école était à la hauteur de sa mauvaise réputation, okay. De ce qu'on entendait, OK? Et là, parce qu'on était, on avait déjà habité dans un autre quartier où il y avait l'école de quartier, c'est une école privée, fait qu'on l'avait inscrit là en se disant, ça nous fera une option, tu sais, quand arrivera la rentrée, mais notre plan, c'est de l'envoyer au public. Et là, j'avais complètement oublié qu'il était inscrit au privé. Et le téléphone sonne pendant la rentrée progressive, après 2-3 jours en maternelle, pour me dire, écoutez, on a une place qui s'est libérée. Et j'ai décidé de la prendre. Puis, ce que ça dit, cette histoire-là, c'est que ben chaque histoire est différente. Et dans mon cas, j'ai jamais regretté d'avoir dit oui. Je comprends qu'on puisse pas magasiner nos écoles publiques à grandeur de la ville. Mais à Montréal, je sais pas si c'est pareil à Québec, Eve-Marie, là, mais à Montréal, la qualité de ton école, c'est beaucoup une loterie. C'est-à-dire que ça dépend de ton code postal. Il y a des bonnes écoles, il y a des mauvaises écoles et des quelques années après le début du parcours scolaire de mon gars, j'ai interviewé Diane de Courcy, qui était dans l'équipe du Parti québécois à cette époque-là, qui était députée, je me souviens pas si elle était encore ministre, là.
Mais qui avait été à la tête de la commission scolaire de Montréal.
Exact. Elle avait été présidente de la commission scolaire de Montréal, puis elle m'a demandé, vous, votre fils, il me semble qu'il va au privé. Là, j'ai dit oui. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai décrit la scène. J'ai décrit tout ce qu'on avait vu à l'école. J'ai dit qu'on avait entendu que c'était une mauvaise école, et ça s'est confirmé. Et là, elle m'a demandé, Mme de Courcy, mais c'est quoi le nom de l'école? Et là, je lui ai dit le nom de l'école, et là, elle a poussé un soupir, elle a dit, ça fait 10 ans qu'on a des problèmes dans cette école-là.
Hey, ça fait 10 ans qu'ils ont des problèmes, Patrick. Puis là, tu te dis, mais pourquoi vous les réglez pas? Hein? C'est une école publique, une école de quartier, il faut faire quelque chose.
Moi, là, je conçois et j'accepte que ce sont des situations complexes. Donc là, la chose facile à faire, c'est de lancer la pierre à Mme de Courcy puis de dire qu'elle aurait dû régler ça. Je sais que c'est complexe, mais comme citoyen, moi, je trouvais complètement fou qu'une école soit laissée à la dérive comme ça, au vu et au su de ceux qui peuvent changer des choses. Je sais que Mme de Courcy ne peut pas changer ça toute seule, mais qu'on laisse aller une école, qu'on sache que depuis 10 ans, c'est un problème, c'est un signe de ce que tu évoquais en début d'entrevue, Eve-Marie. Il y a comme une maladie. C'est pas normal qu'on laisse aller comme ça une école pendant 10 ans, et il y en a plein d'écoles comme ça, en tout cas à Montréal.
Mais il y a aussi un signe d'abandon. C'est comme si on laissait tomber en disant, bon, ben oui. C'est une fatalité. Dans ce quartier-là, oui. Cette école-là, on l'oublie, on la laisse tomber. Est-ce que tu penses, parce que la solution qui est sur la table, puis qui est proposée par QS, c'est plus de financement, donc on enlève le financement au privé, puis on envoie ça dans le public. Est-ce que ça passe seulement par plus de financement dans les écoles publiques?
Moi, je pense pas que ça passe par vider un bocal pour en remplir un autre. Je pense que c'est complexe. Je pense que le privé est incrusté dans le public. Quand le gouvernement décide, je sais pas moi, qui va mettre plus de ressources, ouvrir plus de salles d'opération pour opérer plus d'hanches, mettons, plus de hanches. C'est pas un problème qui est aussi vaste, je dirais, que des enfants qui vont dans des écoles privées. T'ouvres des salles d'opération, t'augmentes le nombre d'opérations aux hanches, puis les gens vont plus y aller au privé. Là. OK, je caricature, mais tu comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. Quand tu rentres dans l'école comme ça, je pense pas qu'un simple transfert d'argent, ça va tout régler. Je pense que le problème est complexe. Je pense qu'il y a un peu de pensée magique dans ce que fait Québec solidaire, en tout respect. Tu sais, dans la chronique aujourd'hui dans la presse, je revenais à ce qu'on nous promettait lors des fusions municipales au début des années 2000. Ève-Marie, je sais pas si tu t'en souviens, moi je m'en souviens, ça allait être tellement payant les économies d'échelle qu'on nous poussait dans la gorge pour justifier les fusions, que, écoute, on allait nager dans l'argent, les taxes allaient au minimum être maintenues, sinon baisser. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Oui. Donc, quand on te propose une solution à un problème complexe, généralement, personnellement, là, mon expérience, c'est que ça fonctionne pas. Et ce que je dis, c'est que les parents québécois qui envoient leurs enfants au privé, là, c'est pas leur idée du fun de dépenser 3 000-4 000 $ par année pour un service qu'ils payent déjà avec leurs impôts. Tu sais, on a commencé là à avoir une prise de conscience collective qui a poussé le gouvernement à agir pour requinquer les écoles québécoises. Mmh. Quand les écoles, dans pas mal tous les quartiers, vont être à niveau, vont avoir des bonnes réputations, les parents vont arrêter de payer pour envoyer leurs enfants au privé. Il y aura toujours un noyau dur de gens riches qui voudront probablement le faire, mais moi, je prétends que ce ne sont pas tous des riches qui envoient leurs enfants à l'école privée. Il n'y a pas assez de riches au Québec pour soutenir l'école privée. Il y a bien des gens de la classe moyenne, puis pas juste de la classe moyenne élevée, qui font le choix de faire des sacrifices ailleurs pour envoyer leurs enfants dans des écoles où ils vont au moins avoir le sentiment qu'on se fiche pas d'eux.
Je pense que chaque parent a la même réflexion. Dans quelle école mon enfant va pouvoir évoluer, se sentir bien, se sentir en sécurité, qui se sentira pas comme un numéro, qui va avoir des activités stimulantes, un corps professoral engagé. Quand t'entends là, dans les rues du quartier, « Oh, tel prof de quatrième année est assez bonne. Oh, prof de ce... » Tu sais, alors ça fait... Tu te questionnes même pas. Tu y vas, puis tu dis, c'est cette école-là qu'on choisit, publique ou privée. Ça dépend vraiment de la qualité de ce qui est offert.
Et présentement, je te le dis, je sais pas pour Québec, là, j'habite pas à Québec, mais à Montréal, c'est une forme de loterie au code postal. Puis on a voulu, écoute, là, le petit va dans une école qui est adapté parce qu'il y a un déficit d'attention. Fait que, bon, comme bien d'autres enfants, et on l'envoie dans une école qui traite les enfants comme ça, c'est adapté. Pour lui, c'est parfait. Ouais. Mais on a voulu le sortir du privé pour l'envoyer au public, OK? Je te fais une longue histoire courte.
Ouais.
Dans l'excellente école du nouveau quartier qu'on habitait, et là, j'ai appelé à l'école pour demander... on a appelé à l'école pour demander c'est quoi les services que vous pouvez donner, c'est orthophonie, orthopédagogie, etc. Et la réponse a été, on n'a aucun service de cette nature-là. Aucun. Tu sais, à une époque où il y a tellement d'enfants qui ont besoin de ces aides professionnelles-là, on me dit, ben, il n'y en a pas. Fait que j'aurais pu l'inscrire et il serait devenu, d'abord, il aurait périclité et il serait devenu un boulet pour sa classe. Mais heureusement, il est rentré dans l'autre école. Mais mets-toi à la place d'un autre parent
ben
là,
oui, c'est ça.
Qui est dans la même situation. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Ben, il va aller 3 rues plus loin puis il va l'inscrire au privé. Parce que tu as beau avoir ces principes-là selon lesquels l'école publique, c'est un outil d'émancipation, ton enfant ne sera pas un cobaye. Si tu as les moyens, tu vas payer. De la même façon que si tu as les moyens de payer pour ton opération au genou parce que tu te déchires un ligament, ben tu vas payer plutôt que d'attendre 18 mois sur la liste d'attente.
Et ça nous amène à parler du sondage aujourd'hui, Ipsos. La réforme Barrette qui ne passe pas. Les chiffres sont assez impressionnants, là. 70% des gens disent que depuis que le ministre Gaétan Barrette est en poste, le réseau de la santé s'améliore pas. Il y a aussi 61% des gens qui le trouvent... ils sont pas d'accord avec sa façon de faire, sa personnalité à Gaétan Barrette. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que la forme est importante dans tout ça, pas juste le fond?
Ben, quand j'ai lu ça dans la presse aujourd'hui, Ève-Marie, je me suis dit, bon, je suis pas fou, je suis pas tout seul. Tu sais, ça fait des années que je martèle le clou selon lequel le style Barrette est contre-productif. Puis là, je suis dans les euphémismes parce que j'ai utilisé des termes qui étaient beaucoup plus durs que ça. Moi, ce que ça me montre, c'est que la forme, c'est important dans la vie. Parfois, c'est aussi important et sinon plus important que le fond. Tu sais, il y a peut-être des bons éléments à sa Barrette. À ses réformes. Mais le style Barrette est à ce point détestable qu'il suscite lui-même des frictions et des obstacles. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne veulent pas collaborer juste parce qu'il est très détestable. Et à un moment donné, ça te rattrape.
Okay.
Et là, tu le vois, 71% des gens qui ont une opinion défavorable, ben ça dit quelque chose sur le personnage.
Alors, s'il avait été plus diplomate, Patrick, est-ce que les mêmes réformes auraient été mieux accueillies?
Ben, écoute, je suis obligé de te dire oui. Même si les questions avec les si,
ouais.
comme disait Gilles Duceppe, si ma grand-mère avait des roues, ce serait qu'est-ce qu'il disait donc? Elle serait une auto, elle serait un camion. C'est sûr que quand tu donnes des coups de poing sur la gueule, métaphoriques évidemment, aux gens, ils ont moins tendance à vouloir collaborer. Mais le style Barrette, c'est ça. Tout le monde est cave. Tout le monde est un épais, tout le monde est un ignorant, tout le monde est un paresseux. Il y a toutes les réponses. À un moment donné, écoute, les gens ils veulent pas collaborer avec toi. Moi, je pense que s'il avait été un peu plus diplomate, ben probablement qu'il y aurait eu plus de collaboration. C'est mon humble opinion là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais regarde, on vit dans un monde où on doit composer avec ce qui est devant nous. Ce qui est devant nous, c'est qu'il y a une immense majorité des Québécois qui trouvent que son style est imbuvable.
J'aimerais bien assister à cette rencontre entre Gaëtan Barrette et la Fédération des infirmières aujourd'hui pour voir comment il va se comporter, quel genre d'écoute il va avoir, puis qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre-là.
Écoute, c'est une bonne question. tu sais, la question de l'épuisement du personnel, c'est une question importante. Puis la question des ratios, c'est une question qui est complexe. Mais quand tu as beaucoup de... On a juste à regarder là, à quel point dans le réseau, il y a des gens qui sont en arrêt de maladie ou qui ont recours là, à des aux prestations parce qu'ils sont en épuisement ou en maladie.
Oui, mais il reconnaît pas ça.
Ça te donne quelque chose. Ouais, je sais, mais tu sais, la vie, c'est pas juste des statistiques, tu sais. C'est pas juste en arrangeant tes stats pour pouvoir claironner le succès de tes réformes que sur le terrain, ça suit. Et puis, moi, je l'ai souvent décrié, Ève-Marie, les mesures indépendantes d'évaluation des décisions du ministre et du ministère ont été abolies. Le commissaire à la santé et au bien-être a été aboli. Pourquoi? Moi, je prétends que c'est parce qu'il chantait une chanson qui était souvent très différente de celle que chantait le ministre. Et des fois, ça embarrassait Québec. Et Gaëtan Barrette n'est pas un homme qui peut tolérer ce genre de dissidence-là. Ça a été effacé, ce petit poste budgétaire-là qui rendait de grands services au débat public. Et là, il y a juste Gaëtan Barrette qui a, dans le fond, les indicateurs de mesure de succès. Mais dans son angle mort, sont arrivés les infirmières qui ont dit « Hey, on est tanné, on est à bout, on est sur les rotules. » Et ça devient un peu, à un moment donné, ça devient un petit peu impoli de dire que toutes ces personnes-là sont dans le champ quand elles sont épuisées et, je te le fais remarquer, en larmes.
Oui, vrai, c'est vrai. Et moi, je reviens sur ton analogie musicale. Ça ne sera pas possible pour Gaëtan Barrette de chanter en solo tout le temps.
Bon, écoute, il y a...
La chorale des infirmières est assez puissante, puis il n'y aura pas le choix de les entendre.
Ben, tu le vois dans le ton que le gouvernement choisit pour aborder cette patate chaude-là. Hein?
Mm-hmm.
Généralement, Gaëtan Barrette, dans ces débats publics-là, là, quand il croise le fer avec des organisations, des individus, sa technique, c'est de mordre le mollet puis de partir avec le muscle au complet. On l'a vu dans le cas des infirmières, il est pas mal plus mollo. Parce que les infirmières, on le sait, traditionnellement, ont une excellente cote d'amour dans le public. Donc, ça devient un peu dur de partir avec le mollet d'une infirmière.
C'est vrai. Merci beaucoup, Patrick.
Salut.
Salut, à la semaine prochaine. Patrick Lagacé.